就与我随的阿阿语
18h-19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur Radio U pour votre quotidienne, c'est vous qui le dites. Heureuse de vous retrouver sous ce grand soleil, j'espère que malgré tout vous passez un super lundi. Et ce soir nous vous proposons en deuxième partie d'émission un reportage réalisé par Natacha qui revient sur l'éclipse solaire partielle qui a eu lieu ce samedi et qu'on a pu apercevoir en Bretagne. Mais pour commencer, ce dimanche 30 mars, la salle de spectacle La Velvore à Plougastel recevait Ablaye Sissoko et Cyril Brotteau en plein dans leur tournée pour leur deuxième album commun Gio. Ablaye accompagné de sa cora et Cyril de son accordéon ont livré un spectacle résonnant au son du vivant. Natacha peut les interviewer après le concert, on écoute.
D'accueillir Ablaye Sissoko, maître de la cora et griot sénégalais. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Cyril Brotteau, virtuose de l'accordéon diatonique.
Bonjour.
Ensemble, vous formez un duo hors du commun mêlant les sonorités traditionnelles africaines aux influences européennes. Et ce week-end, vous produisez à Plougastel d'Aoulas, dans le cadre d'un concert où vos deux instruments, donc la cora et l'accordéon, à la fois vibrant et chaleureux, se rencontrent pour offrir une expérience musicale intime et poétique. Votre deuxième album, donc c'est le deuxième album que vous sortez ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cet album Gio?
En fait, là, Gio, en fait, ça, Gio dans ma langue maternelle, qui est le mandingue, comme je disais, c'est une des langues les plus parlées en Afrique de l'Ouest, à part le Fulani. Gio, en mandingue, veut dire l'eau. Donc là, on parle, en fait, il y a un moment, un petit peu, on parle juste le côté positif, un petit peu. Quand la pluie tombe, la terre a besoin de la pluie. Mais quand on sort dans ce cadre-là, on dit que l'eau fait beaucoup de dégâts, des dégâts naturels ou provoqués par l'homme. Et donc, il y a beaucoup de villages qui ont disparu. Ça fait beaucoup de mal. Cette eau a fait des orphelins, a fait des gens sans abri, mais quelque part il y a ce qu'on appelle cette solidarité. La solidarité fait que voilà, il y a certaines qui arrivent à s'en sortir. Voilà, j'ai voulu un petit peu retracer un petit peu les dégâts que l'eau a fait, mais d'accentuer vraiment sur la solidarité. Voilà, et c'est ça qui fait que parce que souvent quand on voit ces phénomènes là sur certaines côtes. Comment l'eau ravage ces pays, c'est incroyable. Et donc, j'ai voulu un petit peu parler de ça.
Cyril Brotteau, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux pour la première fois? Dans quel contexte?
Pour la première fois, à vrai dire, on s'est rencontrés donc chez moi, dans le Quercy. Moi, je viens du Quercy. Le Quercy, ce territoire, c'est plus spécifiquement, administrativement parlant, c'est le département du Lot. Enfin, en tout cas, une partie du Quercy, département du Lot. Il se trouve qu'avec ma chérie, on a organisé des petits concerts à la maison, en mode, tu sais, tu pousses le canapé, et puis des musiciens sur la route, et tu rentres une quarantaine de personnes dans le salon. Et en fait, en parallèle de ça, elle est fan de la musique d'Ablaye depuis ses premiers disques, Le Grillo Rouge, et tout ça. Donc moi, j'ai découvert la musique d'Ablaye grâce à Émilie. Et en fait, un jour, il passait vers Toulouse c'est quoi, 2h, 2h30 de chez nous, et j'appelais son agent pour que éventuellement, s'il acceptait, pour qu'Ablaye vienne faire un concert en solo à la maison, dans l'idée de faire une surprise à ma chérie, en fait. Et en fait, avec François, notre agent, c'est quand même le réseau de la musique, donc on se connaît pas, mais on se connaît quand même, hein. Donc on a eu la chance avec Émilie, donc Ablaye accepte de venir faire ce concert solo dans le salon, et c'était vraiment un super moment, et c'est vrai que auprès d'elle j'ai marqué des points.
J'imagine.
Il aime marquer des points, lui.
Tout a démarré comme ça. Hein. Du coup, on a discuté ensemble. Et puis, tiens, tu fais la musique? Oui, je joue l'accordéon. Ah, peut-être, est-ce que tu pourrais faire un morceau avec moi? Mais j'ai dit, bah, allez, avec plaisir. Puis, du coup, je me suis retrouvé. J'ai eu le bonheur de me retrouver avec Ablaï à jouer un morceau dans le salon, en pantoufle, chez moi. Voilà, et c'était vraiment un très bon moment.
Ablaï, c'était quoi ce morceau pour la première fois que vous avez entendu l'accordéon de Cyril?
Ah non, je ne sais pas, je peux pas vous dire, j'étais tellement emporté par ce monsieur que j'ai vu jouer d'une façon vraiment très divine. Et pour moi, c'est juste un plaisir de l'écouter, de le regarder, de jouer. Donc je prends beaucoup de plaisir à l'écouter. Non, moi, ça m'avait marqué. Et puis même si, au fait, tu sais, comme on dit, nul n'échappe à son destin. Et donc comme nous, les griots, comme je dis souvent, on est appelé aussi dans certaines maisons à jouer, bien sûr, si on a toujours le temps, mais ça fait partie aussi de notre mission. Et donc, comme nul n'échappe à son destin, donc cette rencontre était inévitable. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc dans tous les cas de figure, moi et Cyril, on devait se rencontrer pour pouvoir aussi faire ce chemin ensemble. Et donc je suis très, très... très, très, très. Il est très modeste. Hein. Il est très. Il se fait petit, mais c'est un très grand monsieur. Voilà. C'est moi qui a ce privilège d'être avec lui. Voilà.
Combien de temps vous avez mis pour travailler sur cet album-là? En fait, combien de temps il s'est passé pour faire cet album?
Ah, d'accord. Je laisse à Monsieur Breton.
Oh, c'est difficile. C'est difficile à quantifier la quantité de travail. En tout cas, on a passé quelques jours à enregistrer, et ça, c'était aux alentours du mois d'août 2024, pour, après toute l'étape de mix, de master, toutes les étapes techniques, pour aboutir au final, et le graphisme, etc., etc., pour aboutir au final à la sortie, comme tu disais, le 24, fin janvier 2025.
Oui, en fait, parce que là, on est sur le chemin, parce qu'on a fait aussi un premier disque. Mais souvent, quand on sort, quand on part en tournée, donc pendant les balances ou des choses comme ça, on joue, hein, donc on joue. Et donc, je pense qu'il était arrivé à un moment donné où des choses, où on se comprenne beaucoup mieux, il y a des choses... Donc ils deviennent plus faciles parce qu'on a eu le temps quand même souvent d'essayer des choses. Et donc le moment était venu pour faire la suite. Et donc je pense qu'on avait même fait une première. La date qu'on avait prise, après on dit non. Voilà. Prenons le temps de refaire, de travailler ou des choses comme ça. Et on a bien fait de prendre le temps de retravailler, tout ça, etc. Bon voilà, c'est... parce que là, on a gagné en confiance aussi chacun sur notre travail, tout ça, pour ne pas dire la maturité ou des choses comme ça. Mais oui, pour quantifier le temps, c'est un peu... De toute façon, nous, on ne répète pas beaucoup, on n'aime pas trop répéter, tu vois. On n'aime pas trop répéter parce qu'on est dans ce qu'on appelle le vivant. Donc on le lance, bon après dès qu'on le lance, après il faut le travailler. Après il faut le travailler, et c'est ça que je trouve extraordinaire, quoi, voilà. Donc c'est ça que je trouve extraordinaire.
De par nos cultures différentes, un point sur lequel on se retrouve, il me semble, c'est que on joue des musiques vivantes. Donc il y a effectivement certaines choses qui sont établies un peu de base, mais quand même ça laisse quand même pas beaucoup de liberté, en fait. Donc des fois il y a des propositions, sans vraiment qu'on se concerte à l'avance, tu vois, ça reste des propositions musicales. Et donc comme on reste à l'écoute l'un de l'autre, on voit il me semble qu'il y a une sélection naturelle des propositions qui s'opèrent, et donc on sait si très vite si telle proposition on va la garder ou si telle proposition, on ne va pas la garder. Et ça se fait plutôt naturellement, en fait.
Ça vous arrive des fois d'improviser en plein concert sur des musiques?
Ah ouais, sur des parties solo. Il y a des moments, oui. Et non, non. Et puis là, parce que les pièces sont évoluées aussi, parce que des fois quand ça joue comme ça, on n'est pas carré, hein. On n'est pas carré. Donc, je pense qu'on s'ennuierait trop. Il y en a qui sont très forts pour ça, mais je pense que moi, non. Non, il y a des moments où je lance des choses et là, il y a des moments aussi, ils me lancent des pics donc, sur scène. Donc, voilà. Et puis, ça installe des choses, des jolies choses aussi. Quoi, là. Non, non, c'est... Non, non, il y a des moments d'improvisation aussi. Mais...
On se fait quelques blagues voilà. De temps en temps. Voilà. On se fait quelques blagues.
Non, ils me déstabilisent.
Oui, mais
fait pour me déstabiliser.
Ça marche dans les deux sens. Hein, voilà.
Sur l'album, l'ancien album, enfin l'album, le premier album que vous avez fait, il y avait plus de voix ou moins de voix, ou est-ce que sur cet album-là, vous avez plus cherché à mettre en avant le vocal, la voix?
Sur le premier, il y a moins de voix. Même là, nous, on a trouvé que sur celle-là, il y a beaucoup de voix. Moi, de ma part, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de voix. Donc, eux, ils ne trouvent pas qu'il y avait beaucoup de voix. Ils disent qu'il n'y a pas assez de voix. Mais oui, you know, en fait, non, pour moi, ce qui est important, parce que là, il y avait aussi des choses à raconter avec la voix, mais différemment aussi. Tu sais, il y a des moments, il n'y a pas besoin de voix. Les pièces se parlent toutes seules. Mais il y a des moments aussi, il faut mettre les voix parce que ça parle aussi. Non, non, c'est quelque chose de très naturel, c'est évolutif, vraiment.
Et vous, Cyril, qu'est-ce que ça fait, le fait de mettre un petit peu plus de voix? Est-ce que ça joue, par rapport à votre jeu de l'accordéon, qu'est-ce que ça vous plaît?
Non, moi, j'ai toujours un grand plaisir à accompagner des chanteurs. Parce que j'aime bien ce poste-là. C'est un poste dans lequel effectivement quand tu fais de l'accompagnement de chanteur t'es pas devant, hein. Et avant de rencontrer Ablaye, j'ai joué pendant 15 ans avec un chanteur qui chante en occitan, donc je suis quand même sensibilisé à cet exercice là mais moi j'aime beaucoup quand il chante et j'aime beaucoup comment il chante, donc c'est vrai que peut-être lui se plaint qu'il y a trop de voix, mais moi j'aime bien quand même.
Non, je sais pas si je me plains ou pas, mais je sais que c'est pas quelque chose de c'est quelque chose de très naturel, ouais. Et toutes les pièces qui sont là, et puis tu vois, ça parle des choses vraiment. Et quand je le chante, j'ai l'impression de le vivre, ouais, tu vois. Donc je suis touché par tous ces mots, me parle. Donc ces mots ont besoin que je le dise haut et fort pour que tout le monde l'entende. Pour moi, c'est une grande bénédiction, voilà.
Il me semble que vous avez commencé vos deux instruments assez jeunes. À quel âge vous avez commencé la cora?
Oh, j'ai toujours joué, moi, la cora. Moi, j'ai toujours joué, parce que j'ai trouvé mon père y jouer, mon grand-père y jouer. Donc, c'est quelque chose vraiment... C'est notre héritage. Donc, on a toujours joué. Bon, maintenant, après, à quel moment on devient sérieux ou pas, donc ça, c'est autre chose. Mais on a toujours joué. Moi, je me souviens... Jouer, bon, je m'amusais, hein. je grattais la cora, je faisais beaucoup de choses. Mais à 8 ans, ça commence, mais à 12 ans, là, on commence à être très sérieux. À partir de 12 ans, on commence à être sérieux parce qu'on sait qu'on était persuadé que voilà, le destin nous a liés avec cet instrument. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler, voilà, parce que non seulement c'est un héritage, mais ça va devenir en profession, voilà. Et donc, ça nécessite aussi beaucoup de travail, beaucoup de recherche, voilà, pour pouvoir mieux la représenter. Voilà.
Nivilita vita mala Yie komo fele mamo dje
Issa l'onko Isso lobe molofi Ni vita vita malade Ye como fele mamoje Issa l'onko Isso lobe molofi.
Cyril, est-ce que ça a été un héritage, l'accordéon? Est-ce que ça vient de... Je sais pas, dans le monde de la famille, de... d'où ça vient?
Chez moi, on va pas aux fesses-noses. Mais quand même, pour la musique traditionnelle, il y a quand même ce contexte de bal et de concert qui existe aussi. Donc c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais baigné là-dedans. Donc c'est pareil, ça a été tout naturel et vraiment simple d'aller vers ça, puisque c'était mon quotidien. J'accompagnais mes parents qui allaient au concert et au bal, donc c'est tout naturellement que je me suis dit, bah, ça a l'air sympa de jouer de la musique et ça me plaît, et cette idée-là me plaît. Donc je ne me suis même pas spécialement posé des questions en me disant, tiens, je vais faire ça. Voilà, tu es dedans, tu es dans la marmite. Et tu fais quoi? Et tu fais. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire mon métier. Et c'est plutôt une chance, je trouve, actuellement, de pouvoir faire ça.
Dans quelques jours, vous en serez où par rapport à votre tournée? Vous serez à l'étranger ou vous serez toujours en. Oui?
On part milieu de semaine prochaine, on part pour une quinzaine de jours aux États-Unis. Donc on en aura côte est et côte ouest, de mémoire, j'en ai pas tout par cœur, bien sûr, mais de mémoire, on aura Boston, New York, Portland, Seattle, Santa Cruz, quelques festivals, quelques salles, et voilà, ça devrait être chouette.
Et donc la tournée dure combien de temps?
une quinzaine de jours.
15 jours?
Ouais.
Et après, vous revenez, après les États-Unis, vous serez, vous revenez en France?
Oui, après moi, je continue pour le Canada. j'ai des choses à faire là-bas. Après, je repars aux États-Unis. Après, on se retrouve au début du mois prochain avec Cyril aussi, parce qu'on a d'autres dates aussi en Europe aussi. Et voilà, ça continue. C'est notre quotidien, voilà. On va dire ça.
Je vous remercie en tout cas à tous les deux pour cette interview.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
C'est un extrait du dernier album d'Ablaï Sissoko et Cyril Brotteau, Gio, sur Radio U. Et pour continuer notre émission, ce samedi matin, entre 10h et 13h, avait lieu une éclipse solaire partielle du soleil et Brest était la meilleure ville pour l'observer avec 32,5% de soleil recouvert. L'association d'astronomie Les Gens de la Lune avait organisé une rencontre pour le public avec des télescopes et des lunettes à disposition pour l'observer en sécurité. Nous avons rencontré le public et certains et certaines avaient des souvenirs de celle de 99. Nous écoutons.
Est-ce que vous connaissez un petit peu le mécanisme d'une éclipse alors ?
Oui, je sais que c'est la Lune qui se place entre la Terre et le Soleil pour que l'on ait une éclipse de Soleil. Et j'en ai déjà vu dans le Morbihan il y a quelques années. Là, à l'époque, j'avais des lunettes, donc j'ai pu observer ça très bien d'ailleurs. C'était aussi une éclipse partielle. Mais une éclipse totale, je n'ai pas eu la chance de l'observer en 99, il y avait trop de nuages. J'étais ici, mais bon, enfin à Puydalmézo, mais je ne l'ai pas pu la voir.
En 99, il y avait une éclipse, vous l'aviez vue ?
Oui. Alors, dans ma mémoire, c'est donc en août 99, l'éclipse totale, si je ne me trompe pas. Et nous étions en mer avec un de nos fils et nous avons eu la chance de la voir vraiment entre deux gros nuages. On a viré de bord, tu te rappelles ?
Vous étiez en mer.
On était en mer, on allait en Angleterre, enfin aux îles Scilly, voilà. Et il était quoi, 10h, 11h du matin ? C'était la matinée, voilà. Et on a vu vraiment une éclipse totale de soleil avec le ciel qui s'est assombri. On a eu la sensation que...
C'était la nuit.
Oui, c'était presque la nuit. Hein.
Les oiseaux commençaient à...
Tout s'est calmé, les oiseaux changeaient. Il y a vraiment eu un grand changement d'atmosphère.
C'était impressionnant.
C'était magnifique.
Vous avez peur ou parce que...
Ils ont vu que c'était la nuit, quoi. Donc,
ça devait être impressionnant.
Oui, ça ne dure pas très très longtemps, mais bon, la Lune allant très doucement, comme c'était une éclipse totale, on a quand même eu le temps de l'apprécier. Et quand le ciel a été totalement caché par la Lune, il ne restait plus que... Oui, le soleil, oui. Mmh. Il ne restait plus que la Lune noire et un halo doré tout autour. C'était vraiment très, très beau.
On pourrait croire que les éclipses ne peuvent s'observer qu'avec des lunettes d'éclipse, mais il faut croire que les plus téméraires et bricoleurs avaient plus d'un tour dans leur sac. On écoute.
J'ai fait une boîte à éclipse, en fait. J'ai fait avec un carton, tout simplement, une sorte de boîte noire. Au fond, un papier blanc. Et j'ai fait un encart, un trou dans le carton avec un papier d'aluminium et une toute petite pointe d'aiguille. Un autre trou dans le carton pour pouvoir y mettre l'œil. Et après, on se met dos au soleil. Et on arrive à voir clairement le soleil avec l'éclipse, le rond du soleil grignoté. En fait,
comment vous avez trouvé cette technique ?
Et ben c'est ma mère qui m'a envoyé une vidéo que le Télégramme avait publiée pour justement faire cette boîte à éclipse.
Génial.
Ouais.
Des masques de soudure en fait.
Quand vous soudez, vous mettez un masque.
Oui.
Et ben c'est des verres comme ça qu'il y a dessus, tout simplement, pour pas que.
Et donc ça permet de se protéger les yeux pour.
Parce que vous savez qu'il y a des arcs quand vous soudez. Donc voilà, protéger.
C'est un peu plus solide que les lunettes qui font tourner dans le public. À la moindre rayure, les lunettes elles vont à la poubelle. Ça, c'est un peu tout terrain. Quoi.
Regardez d'ailleurs.
Il faut que l'œil s'accommode. Hein,
Mettez assez près de l'œil. Hein.
Oui, on commence à voir un peu. Hein.
Enfin, des personnes étaient présentes avec un appareil pour voir l'éclipse et prendre des photos pour repartir avec un beau cliché de ce spectacle.
Ce que j'ai là pour observer, c'est un petit objet, ça s'appelle le Hestia. C'est une boîte qui s'appelle Vionis qui fait ça. Et en fait, c'est un petit télescope pour portable. En fait, on peut poser son portable dessus. Et actuellement, j'ai un petit filtre solaire pour permettre de voir le soleil. Donc, on peut voir les taches du soleil, etc. Mais ça marche aussi pour les étoiles. Et on peut faire tout ce qui est des photographies de galaxies, de nébuleuses, etc. Donc voilà, en fait ça analyse les étoiles que la caméra du téléphone voit et après avec le gyroscope du téléphone, il va vous dire par où tourner l'objet pour pouvoir pointer les bonnes choses. Voilà.
L'association qui s'est occupée d'organiser cet événement, les Gens de la Lune, c'est une association d'astronomie au sein de l'IMT Atlantique à Plouzané. Et la prochaine éclipse totale qui sera visible sera le 12 août 2026, mais malheureusement on ne pourra la voir qu'en Espagne. Et cette fois la quotidienne est terminée, on se dit au revoir et à demain pour une nouvelle émission sur Radio U.